Vous écoutez, on lit pour vous.
Un permis de travail refusé à cause de documents pas encore délivrés. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir. Rim Kebdani pensait avoir enfin coché toutes les cases, s'être conformé à tous les critères qui changent tout le temps et être parvenu au bout des sacrifices pour s'installer un peu plus définitivement au Québec. Mais cette étudiante à la maîtrise en études hispaniques à l'Université de Montréal vient d'essuyer un refus pour son permis de travail post-diplôme et désespère de pouvoir régulariser rapidement sa situation migratoire ainsi que celle de son mari et de son fils. « Ma vie vient de faire un virage à 180 degrés. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. J'ai tellement tout fait pour être correcte dans mon dossier », déplore cette femme d'origine espagnole. La décision est profondément dévastatrice, mais aussi incompréhensible à ses yeux. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, lui reproche de ne pas avoir démontré clairement, selon le mot utilisé dans la lettre de refus consultée par Le Devoir, qu'elle avait bel et bien terminé son programme d'études. Elle avait pourtant soumis un relevé de notes officielles indiquant que 45 crédits sur 45 avaient été obtenus, un élément qui figure bel et bien dans la liste du ministère fédéral parmi les trois preuves admissibles. « Le site de l'immigration est très clair à ce sujet », affirme la femme dans une entrevue entièrement en français. IRCC a plutôt remarqué une note de bas de page indiquant que le programme d'études n'était pas encore terminé, nous écrit un relationniste. Des délais qui ne concordent pas. Il revient au demandeur de fournir toute l'information et ou documentation requise dans sa demande au moment de la soumission, énonce IRCC. Il était toutefois impossible pour Mme Kebdani de soumettre son diplôme ou une lettre officielle de fin d'études, les deux autres preuves admissibles, puisqu'il n'était pas encore délivré au moment où celle-ci a déposé son dossier, le 29 mars 2025. Elle venait de recevoir, à la mi-mars, l'approbation du jury pour son mémoire de maîtrise. Le temps urgeait pourtant, puisque son permis d'études expirait le 31 mars 2025 et qu'elle devait absolument maintenir un statut migratoire. J'avais déjà fait tout ce que je pouvais, étudié jour et nuit, en plus de travailler et de m'occuper de mon fils. J'ai mis de la pression sur le jury en leur demandant de le corriger le plus rapidement possible pour renouveler mon statut, expose Mme Kebdani. Elle est également pressée de décrocher un permis de travail de plus longue durée pour poursuivre des contrats déjà entamés dans son domaine. « Tout semblait enfin vouloir être parfait », exprime-t-elle, la gorge nouée, car elle craint maintenant de perdre son emploi. Au moment du dépôt de son dossier et devant les chronologies différentes de deux bureaucraties, l'une universitaire, l'autre fédérale, une conseillère de l'université lui aurait suggéré d'ajouter une note explicative pour insister sur l'achèvement du programme. Mais le relevé et cette note, ainsi que tous les autres papiers en règle, n'ont pas suffi à convaincre l'agent d'IRCC qui a refusé son dossier le 13 mai 2025. Le jour même du refus, elle reçoit enfin la lettre de l'Université de Montréal où il est écrit noir sur blanc que son diplôme lui sera conféré et que la dernière activité académique a été complétée au trimestre automne 2024. Si l'agent n'a pas compris quelque chose, il peut toujours m'appeler ou communiquer avec l'université, mais il a plutôt tourné la vie de trois personnes en enfer. C'est irresponsable, formule-t-elle. Il incombe aux demandeurs de présenter des dossiers complets car les agents d'IRCC ne sont pas toujours obligés de demander des informations supplémentaires avant de prendre des décisions, soutient pour sa part le ministère fédéral. Son permis de travail a par ailleurs été traité en un temps record, en 45 jours plutôt que la moyenne de 238 jours affichée par l'IRCC et au bureau des visas de New York, relié au consulat canadien, comme nous l'a confirmé ce ministère. C'est tellement accéléré, on se demande si quelqu'un a même regardé ma demande pour 3 minutes. Est-ce qu'un agent là-bas connaît vraiment la réalité montréalaise? Demande la mère de famille. Jamais trop certain. L'avocat en immigration Maxime Lapointe recommande dans ce genre de situation de ne prendre aucun risque et de demander une prolongation du permis d'études pour éviter d'avoir ce genre de refus. Les délais de correction des mémoires de maîtrise sont toujours aléatoires et incalculables. Alors c'est toujours plus sage de demander un autre permis d'études, explique-t-il, tout en déplorant la situation. Le problème est aussi que le permis d'études de Mme Kebdani a eu une échéance aussitôt au printemps, un autre élément incontrôlable. L'IRCC précise bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un consultant ou à un avocat en immigration pour remplir les demandes, mais c'est une question de stratégie qui doit être parfaite, indique Maître Lapointe. Au jour même du dépôt pour le permis post-diplôme, il faut avoir le plus de documents possible. Des exigences mouvantes. Arrivée avec son fils adolescent en pleine période des fêtes en 2022, Mme Kebdani a commencé sa maîtrise quelques jours plus tard et l'a ainsi terminée en moins de 2 ans et demi. Entre-temps, son mari les a aussi rejoints. Il avait droit à un permis de travail ouvert, mais le délai de traitement a été tellement long qu'il a été octroyé avec quelques mois de validité seulement. Il faut comprendre que l'expiration de ce permis était liée à son permis d'études à elle, avec des dates qui devaient coïncider. Il voulait vraiment travailler, mais il ne pouvait pas. Et quand on a reçu le permis, personne n'a voulu le recruter juste pour 3 mois, déplore-t-elle. La famille a traversé des mois financièrement très difficiles, vivant de la solidarité familiale, mais à un coût humain et émotionnel immense, glisse la dame. Depuis novembre 2024, les étudiants doivent en outre démontrer un niveau de français ou d'anglais avancé pour faire une demande de permis post-diplôme. Madame Kebdani, citoyenne espagnole, parle bien français pour avoir passé une partie de son enfance au Maroc, où cette langue est courante. Les cours et la vie à l'Université de Montréal se déroulaient aussi en français. Mais elle a tout de même dû suivre des cours privés de préparation aux tests de langue et payer les frais pour ce même examen. Elle aurait pu se qualifier à l'immigration permanente dans la province, à travers le volet pour les diplômes étrangers du programme de l'expérience québécoise, PEQ, mais cette voie a été gelée par Québec au moins jusqu'au 30 juin 2025. Une demande de révision de la décision a été faite à IRCC le lendemain du refus et la demande de permis de travail a été rouverte, confirme IRCC le lendemain des questions du devoir. Madame Kebdani pourrait aussi recommencer la procédure de zéro, en passant en plus par ce qu'on appelle le « rétablissement de statut ». Les frais à débourser sont cependant élevés aux yeux de la famille, sans parler des délais combinés de ces deux démarches qui pourraient s'étendre jusqu'à 8 mois. Et en attendant, on va survivre comment? C'était un permis de travail refusé à cause de documents pas encore délivrés, un texte de Sarah R. Champagne paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir.
Nouveau visage, nouvelles adresses. Le village se réinvente. Une chronique de Gabriel Rondy paru le 21 juin 2025 dans le magazine Fugue. Chers lecteurs, lectrices, s'il y a une chose que j'ai apprise en dirigeant la Société de développement commercial, SDC, du village, c'est que le village est un quartier qui ne tient jamais en place. Il bouge, il mue, il résiste, il se transforme. Et ça se sent encore plus vivement l'été, quand la rue Sainte-Catherine-Est devient piétonne pour redevenir ce qu'elle est fondamentalement, un lieu de passage, de rencontre, d'expression, d'appartenance. Cette année, la piétonnisation célèbre ses 19 ans. Et pour souligner cet anniversaire, j'avais envie de mettre en lumière un phénomène trop souvent passé sous silence, la résilience et le renouveau du commerce local. Malgré les crises, malgré les travaux à venir, malgré les peurs bien réelles autour de l'avenir des artères commerciales, il y a encore, et peut-être plus que jamais, des gens qui choisissent d'investir dans le village. Pas seulement de l'argent, du cœur, de l'audace, du temps. Ouvrir un commerce ici, c'est une déclaration. Ça veut dire « je crois encore au village, je veux faire partie de cette histoire ». Voici donc quelques-unes des nouvelles adresses qui font battre le cœur du quartier autrement en 2025. Et surtout, les gens et les idées derrière ces projets. Boutique Empire, du sport, du style et du sang neuf. Dans l'ancien local d'Archambault, symbole de culture populaire et de rendez-vous d'une autre époque, une nouvelle génération s'installe. La boutique Empire, bien connue au Québec pour ses vêtements de sport et son style sweatwear, s'apprête à ouvrir ses portes dans ce vaste espace au cœur du village, grâce à l'audace de Philippe Grisé, copropriétaire des boutiques Empire. Leur arrivée vient clairement combler un manque dans la diversité commerciale du secteur. En s'adressant à une clientèle jeune, mixte et urbaine, Empire vient redonner du souffle à un quartier qui semble n'être que de bars, restos et lieux nocturnes, et qui saura répondre aux besoins des étudiants, étudiantes de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal ou des étudiants, étudiantes du Cégep du Vieux-Montréal, maintenant installé dans la place du Puy. L'arrivée de la boutique Empire, c'est un signal fort. Le village n'est pas qu'un lieu de nostalgie ou de fête, c'est aussi un espace où l'avenir s'installe. Un vent d'ailleurs à l'ouest, le bistrot indien. Du côté ouest du village, au 926 Sainte-Catherine-Est, une petite adresse toute neuve fait déjà parler, le bistrot indien. Avec sa cuisine savoureuse, parfumée, généreuse, il propose une expérience culinaire à la fois accessible et dépaysante. Et surtout, il vient redynamiser un secteur trop souvent oublié du quartier. L'ouverture de cette adresse représente bien plus qu'un simple ajout gastronomique. C'est un acte de revitalisation. En diversifiant l'offre culinaire, en attirant de nouveaux publics, ce bistrot vient rééquilibrer la fréquentation de la rue et offrir aux résidents, résidentes de l'ouest du village, une raison de redescendre sur Sainte-Catherine. Une belle addition qui réchauffe autant le cœur que le palais. Bernard Cabaret Gourmand, drag brunch et folie festive. Le Bernard Cabaret Gourmand est sans contredit une des ouvertures les plus réjouissantes de l'année. Situé dans un espace parfaitement aménagé, il offre une combinaison rare et gagnante, une excellente table et des spectacles inoubliables. Tout ça grâce à la vision de son fondateur, Jean-François Rondeau, et de son équipe de passionnés. Le week-end, les drag brunch y sont devenus un incontournable. La programmation artistique y est audacieuse, variée, menée par des artistes aussi drôles qu'inspirants, inspirantes. C'est un lieu où l'on célèbre la culture queer dans toute sa splendeur. Mais le Bernard, c'est aussi un symbole, celui d'une volonté de revaloriser les arts de la scène queer, autant la drague que le burlesque, dans un cadre accessible et festif. En plein cœur du village, il propose un espace de plaisir inclusif et raffiné qui attire autant les habitués du quartier que les curieux, curieuses venus d'ailleurs. Un petit bijou. Le pub Wiser, la naissance d'un lieu culte. Les amateurs à matrice de nightlife reconnaîtront leur nom, Danny Jobin et Vincent Bruno. District Video Lounge, Club Date, Bar de Stock, ainsi que Jean-François James sont derrière le tout nouveau Pub Wiser, installé dans l'ancienne taverne 1309. Ce n'est pas leur premier rodéo, et ceux qui ont vu la transformation du stock en un espace vibrant et toujours achalandé savent déjà que le Pub Wiser sera une destination à suivre. Pensé pour rassembler, ce nouveau lieu incarne une vision inclusive et branchée de la vie nocturne, où chacun, chacune est accueilli comme chez soi. C'est aussi une manière de préserver l'âme festive du village, tout en renouvelant les codes. Avec leur flair et leur amour du village, ils réinventent l'espace pour en faire une destination conviviale, branchée et inclusive. Si on se fie à leur expérience avec le stock, tout indique que dès son ouverture, le pub Weiser attirera une clientèle fidèle. Tabla, une métamorphose réussie grâce à l'appui public. Le restaurant Tabla, bien connu du quartier, a récemment vécu une renaissance. Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et à l'aide de la SDC du village pour l'obtention d'une subvention au Commerce Montréal, l'établissement s'est offert une seconde vie. Nouveau décor, nouvelle ambiance, nouveau menu. L'intérieur a été entièrement rénové et l'expérience client repensée. Résultat, une atmosphère chic mais conviviale et une cuisine qui fait voyager. C'est le parfait exemple d'un commerce enraciné qui choisit de se réinventer au lieu de partir. Et c'est précisément ce type d'histoire qu'on veut raconter davantage dans le village. Les visages du renouveau. Derrière chacun de ces projets, il y a des humains, humaines. Des gens qui croient au potentiel du quartier, qui voient au-delà des statistiques, des manchettes ou des préjugés. Des personnes qui, malgré les défis, choisissent le village et qui y amènent leurs idées, leurs rêves, leur culture, leur audace. Pour moi, le développement économique va au-delà des chiffres. C'est une question d'ancrage, de sentiment d'appartenance et d'envie de contribuer à la communauté. Donc, soutenir les nouveaux commerces dans le village prend tout son sens puisque c'est aussi encourager une vision de la ville inclusive, créative et profondément humaine. À Ville-Marie, on y croit et on agit concrètement pour donner à ce quartier emblématique tout le soutien qu'il mérite, dit Robert Baudry, conseiller de ville du district de Saint-Jacques. À la SDC, on est fier d'accompagner ces initiatives. On les appuie, on les conseille, on les connecte à des programmes d'aide, on leur fait une place dans nos foires, nos communications, nos réseaux. Car leur succès, c'est aussi celui du quartier. Et puis, on oublie souvent de le dire, mais chaque nouvelle adresse, c'est aussi de l'emploi local. Ce sont des gens du quartier ou qui y arrivent avec l'intention d'y rester, qui trouvent du travail, de la stabilité, du sens. Chaque ouverture, chaque rénovation, chaque agrandissement, c'est une promesse de plus pour celles et ceux qui veulent vivre et travailler ici. Un quartier en mouvement, un avenir à écrire. Je le dis souvent, le village n'est pas figé dans le temps. Il n'a jamais été qu'une suite de bars ou de boîtes de nuit. Il est beaucoup plus que ça. C'est un quartier où la vie commerciale, la vie culturelle et la vie communautaire se croisent, s'entremêlent et s'influencent. En 2025, on sent une vraie volonté de faire les choses autrement. Les commerçants, commerçantes veulent plus de beauté, plus de sens, plus de lien avec les gens. Et les citoyens, citoyennes veulent soutenir le commerce local, vivre dans des espaces à échelle humaine, sentir qu'ils et elles font partie d'un tout. L'été, le village devient aussi une porte d'entrée touristique sur Montréal. Nos nouvelles adresses contribuent à cette première impression. Elles donnent le ton, elles racontent l'âme du quartier. Ce sont souvent les premières, et parfois les meilleures, expériences que vivent les visiteurs, visiteuses. Offrir une diversité commerciale de qualité, c'est aussi affirmer fièrement qui nous sommes et ce qu'on souhaite partager avec le monde. Et vous, que ferez-vous cet été? J'espère que cette chronique vous donnera envie de découvrir, redécouvrir le village, de pousser la porte de ses nouvelles adresses, de discuter avec ces entrepreneurs passionnés, d'encourager cette dynamique de renouveau qui, tranquillement mais sûrement, redonne au village son éclat. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui faites vivre ce quartier, par vos choix, vos habitudes, vos engagements. Et chaque commerce que vous visitez, chaque repas que vous savourez, chaque show que vous applaudissez, c'est une façon de dire « le village compte encore ». Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse construire ensemble. Enfin, pour terminer, je vous avais dit que je vous parlerai bientôt de la programmation de Fierté Montréal pour le Pôle Village. Eh bien, je vais vous laisser mijoter encore un peu, Rendez-vous dans ma prochaine chronique. C'était Nouveaux visages, nouvelles adresses. Le village se réinvente. Une chronique de Gabriel Rondy, parue le 21 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Notre premier échec est de ne pas essayer. Un texte de Luca Lazy Legs Patuelli, paru le 3 juin 2025 dans la presse. Lorsque les gens me voient danser pour la première fois, ils sont souvent surpris. Je ne bouge pas comme la plupart des danseurs. C'est parce que je n'ai jamais eu la possibilité de suivre le chemin habituel. Je suis née avec l'arthrogrypose, une maladie neuromusculaire qui affecte les os, les articulations et les muscles de mes jambes. Mais là où d'autres verraient un obstacle, j'ai toujours essayé de voir la possibilité de bouger et de penser différemment et de vivre. Pas d'excuses, pas de limites. J'ai toujours été un enfant actif, mais je devais participer à ma façon. Lorsque j'ai découvert la danse à l'adolescence, j'ai été attirée par la musique, l'énergie et le sens de l'expression qu'elle offrait. Cependant, il est apparu très vite que les mouvements de base ne convenaient pas à mon corps. J'ai donc fait ce que j'ai toujours fait, je me suis adaptée. J'ai utilisé la force de mes bras et j'ai transformé mes béquilles en extension de mon corps. C'est ainsi que mon style de danse est né, non pas de l'imitation, mais de l'innovation. Mais l'adaptation ne vient pas seulement de moi. Elle provient de l'éducation transmise par mes parents dès le premier jour. Ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais inférieure. Ils ne m'ont pas non plus mis à l'abri des difficultés. Au contraire, ils m'ont inculqué l'une des leçons les plus importantes que j'ai jamais apprises. Notre premier échec est de ne pas essayer. Cette phrase m'a façonnée. Qu'il s'agisse de subir des interventions chirurgicales, d'être exclu du sport ou d'être victime d'intimidation, je savais que j'avais deux choix. Laisser le monde définir mes incapacités ou les définir moi-même. J'ai choisi le second. Pour la prochaine génération. Aujourd'hui, je suis fier d'être danseur professionnel, conférencier, fondateur de Hill Abilities et père de deux magnifiques enfants, Aura Isabella et Luna Valentina. Mes filles me donnent de l'énergie et un but. Elles me rappellent que ce travail, les efforts de sensibilisation, la créativité et l'engagement à construire un monde plus inclusif ne concernent pas que moi. Il s'agit également de la prochaine génération. La Semaine québécoise des personnes handicapées est un moment privilégié pour reconnaître la force et le potentiel des personnes handicapées. Mais ce travail ne peut s'arrêter après une semaine. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées se sentent invisibles, sous-représentées dans les écoles, les emplois, les médias et les arts. Les obstacles ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi sociaux, émotionnels et systémiques. Et il ne faut pas oublier que lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui rend quelqu'un différent, nous ne voyons souvent pas tout son potentiel. Nous enfermons les gens dans nos idées préconçues au lieu de faire de la place pour ce dont ils sont vraiment capables. Et c'est une perte pour nous tous. La création d'une société inclusive n'est pas la responsabilité d'un seul groupe, c'est un engagement collectif. La communauté des personnes handicapées doit continuer à défendre ses intérêts, à innover et à se soutenir mutuellement. Mais il ne s'agit pas seulement d'un travail pour les institutions ou les employeurs, c'est aussi une chose à laquelle nous, en tant que membres de la communauté des personnes handicapées, devons participer. Nous devons rester ouverts, nous exprimer, faire partager nos réalités et écouter les autres afin de trouver des solutions ensemble. L'inclusion réelle est une conversation qui va dans les deux sens. Elle nécessite une collaboration, une confiance et une volonté d'adaptation de la part des deux parties. Cela peut signifier repenser la structure des espaces publics, des lieux de travail, des écoles et des cours de danse. Il faudra peut-être changer nos attitudes quant à la signification réelle du terme « capacité ». Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun a sa place. J'ai eu la chance de présenter le message « Pas d'excuses, pas de limites » à des publics du monde entier, et ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point il trouve un écho chez tout le monde. Lorsque les gens commencent à comprendre que le handicap n'est pas seulement une incapacité, mais une façon différente de bouger, de penser et de vivre, quelque chose change. Ils commencent à voir que l'adaptation n'est pas seulement un outil pour ceux qui ont des défis visibles, c'est un état d'esprit qui peut donner du pouvoir à n'importe qui. Qu'il s'agisse d'un obstacle physique, d'un revers personnel ou de la peur de ne pas entrer dans le moule, ce message nous rappelle qu'il y a toujours une autre façon d'avancer. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses comme tout le monde. Vous pouvez les faire à votre façon. C'est de là que naissent la créativité, la confiance et la liberté véritable d'être soi. C'est ainsi que nous commençons à changer les perspectives, non seulement dans la vie des personnes handicapées, mais aussi dans la société dans son ensemble. Alors, à toutes celles et à tous ceux qui se sont déjà sentis exclus, je vous vois. Vous avez votre place. Vous avez quelque chose de puissant à apporter à ce monde. Et à ceux qui se demandent comment les aider, écoutez. Soyez inclusifs. Adaptez-vous. Faites partie du mouvement. Pas d'excuses, pas de limites, juste des possibilités. Pas seulement cette semaine, mais chaque jour. C'était « Notre premier échec est de ne pas essayer », un texte de Luca Lesilegs-Patuelli, paru le 3 juin 2025 dans la presse.